L'écho
du
parquet.
L'écho du parquet.
L'écho.
L'écho du parquet.
L'écho du parquet. L'émission qui met le feu
au plancher.
Il se dansait beaucoup ici dans,
ouh, dans
les
le
temps.
Des valses, une heure de temps.
Ah oui,
monde.
Une heure et quart.
Ouais. Et bonjour.
Et bonjour.
Et bienvenue dans l'écho du parquet numéro 13. Une émission l'écho du parquet qui est produite par Radio Méga 99.2 FM et qu'on peut également réécouter sur fréquence 7 92 FM et Radio Saint-Ferréol 94.2 FM. Tout ça à condition, bien sûr, d'habiter en Dromardèche, pas loin de chez nous.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez écouter l'écho du parquet, donc une émission consacrée aux musiques et danses traditionnelles sur notre audioblog Arte Radio. Vous tapez l'écho du parquet. Du blog Arte Radio, ça sortira en podcast où vous voulez.
Voilà. Et dans cette émission numéro 13, de quoi c'était qu'on va t'en parler aujourd'hui?
Alors, on va t'en parler de Octantrion, d'un duo dont tu as fait l'interview il y a peu. Et donc, on va écouter leur musique et ce qu'ils ont à en dire.
D'accord, très bien. Et avant ça, la relative nouveauté de la semaine, c'est l'album Bolbec, L'Orient et autres lieux de Noir Anomis. Je dis relative nouveauté, c'est un album qui a quelques mois, je crois. Et Noir Anomis,
on est un peu à la ramasse. Hein.
On est un peu à la ramasse. On en profite pour dire au groupe, n'hésitez pas à nous envoyer vos sons en MP3 à l'adresse de l'émission au moment où vos albums sortent. Et si on aime, et il y a de grandes chances qu'on aime, on le passera. Et donc, Noir Anomis, c'est un duo qui réunit Marion Blanchard au chant et Simon Guélin, je suppose, à l'accordéon et au pied. Il s'agit d'un disque de baltrade avec 12 morceaux qui sont non pas autant de 12 danses différentes, puisqu'il y a 4 valses, avec des variations quand même, mais aussi des danses moins courantes comme la ronde à 3 pas et la marche qu'ils ont sans doute décidé de remettre à l'honneur. Si vous êtes fan de, par exemple, « Ma petite », vous pouvez y aller les yeux fermés, non seulement parce que le chant de Marion Blanchard peut faire penser à celui de Perrine Vrignot, mais aussi du fait de l'esprit des arrangements. Ceux-ci sont forcément plus minimalistes, vu qu'on est dans le cadre d'un duo chant-accordéon, mais ils ont néanmoins, je trouve, un côté très moderne, qui met bien en valeur leur répertoire choisi, celui-ci étant le plus souvent, quasi-totalité, 80% je dirais, issu de collectage.
Mmh. Avec parfois même des extraits de collectage dans les morceaux. Par exemple, au début d'un des morceaux, il y a un collectage.
D'accord. Et je m'en souvenais plus. Et il y a quelques invités sur certains morceaux, comme le guitariste Jérémy Congrega, le vielleux Thierry Noix et le violoniste du Narragonia Quartet, Luc Pilarts. Il y a beaucoup de titres que j'aime beaucoup sur ce disque et j'ai eu du mal à choisir celui à piocher pour l'écho du parquet. Et finalement, même si ça semblait au départ trop évident, j'ai quand même, finalement, opté pour leur version du standard de la chanson révolutionnaire qu'est l'Estaca du catalan Luis Llach, je crois qu'on prononce comme ça, une chanson écrite en 1968 en opposition au régime de Franco. Noir Anomis propose une adaptation de la version française, dont les paroles avaient été écrites par Marc Robin, et les choix esthétiques portés par leurs arrangements me semblent tout à fait originaux et en rupture avec un certain romantisme pompeux que le morceau appelle quand même très facilement, mais je trouve que ça marche aussi très bien en général avec ce genre d'arrangement-là. Là, ils ont une façon de proposer une harmonisation qui n'est pas le truc le plus évident qui est attendu par l'oreille, et qui s'étire sur des notes longues qui, moi, me font penser un petit peu à ce que peuvent faire les Irlandais de Lancôme, dont on risque de reparler plus tard.
Ah bon ?
Bref, pour ceux qui, comme moi, n'en peuvent plus de la version des motivés qu'on entend en boucle dans les manifs depuis des années, penchez-vous, avant d'aller écouter le reste du disque, sur Le Pieux, la version de l'Estaca proposée par Noir Anomis.
Thank you. temps où je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent. Petit, tu vois ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés. Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Da di da 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 da. Da di da 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 da. Da 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 da. Da di da 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 da. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Regarde comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté.
Voici le moment du sujet du jour de cette émission, qui est un entretien avec Éléonore Billy et Gaëtique Chambrier du duo Octantrion, qu'on a rencontré le mois dernier du côté de Sauzet dans la Drôme lors d'un concert de soutien à la Maison Hirsute. La Maison Hirsute, c'est un projet local de résidence pour artistes porté par Marion Boulet et Sébastien Échalier. Et pour se mettre dans l'ambiance, on va d'abord commencer, avant de les écouter nous parler de leur musique, on va commencer par le titre qui ouvre leur deuxième album, un album intitulé 2. Et l'album s'appelle donc 2, et le morceau c'est Baltares Langdanks, si mon accent suédois est correct.
Globalement des musiques amplifiées, voire des musiques très amplifiées, puisque j'ai beaucoup écouté et beaucoup joué de rock, de hard rock et de métal, avant de me diversifier. Lorsque j'ai voulu devenir professionnel, je me suis rendu compte que c'était sûrement pas avec le rock ou le hard rock que j'allais me faire payer autrement qu'en bière. Et donc, voilà, j'ai dû, un peu par la force des choses, élargir ma palette. Et donc, ben, j'ai fait un peu de balles, balles musettes, on va dire, des balles populaires. J'ai pas du tout aimé. J'ai failli arrêter la musique à cause de ça. Et puis, donc, j'ai commencé à travailler plus sérieusement les instruments acoustiques à ce moment-là. J'ai commencé à accompagner des chanteurs-chanteuses et parallèlement je me suis aussi mis à la batterie qui était l'instrument que je voulais faire au départ, mais comme on habitait un tout petit appartement avec des feuilles de papier à la place des murs, c'était hors de question. Donc la guitare en fait a été pour moi un second choix, mais que maintenant je suis ravi d'avoir fait. Mais donc j'ai aussi ce rapport très serré aux percussions qui vient de cette époque-là. Et puis on s'est rencontrés avec Éléonore et ce sera peut-être l'objet de prochaines questions.
Exactement.
Alors, moi j'ai simultanément commencé le violon trad, la musique traditionnelle du Poitou vendéen, quand j'étais gamine, et parallèlement le piano classique. Et voilà, je suis passée par quelques années de guitare classique et puis une vingtaine d'années, j'ai bifurqué au violon aussi vers la musique classique, tout en toujours jouant des musiques populaires, pas mal irlandaises. Et puis, pareil, une vingtaine d'années, j'ai découvert la musique traditionnelle suédoise. Et là, c'était vraiment un gros coup de cœur et je suis partie à fond dans cette tradition. Donc voilà, la musique de tradition orale et la musique dite savante, voilà, c'est un peu mes deux axes de travail.
Et donc, très vite, on a mélangé nos influences. Qui, même si sur le papier rien n'était écrit d'avance, en fait, nos énergies respectives se sont combinées tout de suite. Et Léonore ayant, malgré sa pratique, ou en parallèle de sa pratique des musiques classiques et traditionnelles, une propension importante à aimer les choses énergiques. Et puis moi, comme j'étais dans une démarche donc d'élargissement de ma palette de jeux, et ben en fait c'est deux énergies qui se sont rencontrées de cette façon-là. Le croisement musical a été rendu possible par plusieurs choses. Un, l'envie de travailler ensemble et de faire de la musique ensemble. Deux, la compatibilité de nos énergies respectives, ce qui était quand même quelque chose de très important. Et trois, finalement, Éléonore a abordé le Nord par la musique, alors que moi, je l'avais abordé par la géographie quand j'étais petit, puisque notre père nous emmenait très régulièrement dans les pays du Nord et qu'on a eu l'occasion d'aller en Suède, Norvège et ailleurs. Voilà. Et donc, du coup, l'univers que portait Léonore a résonné immédiatement et ça a rendu les choses compatibles.
Le nickelharpa est une vielle à archer suédoise, c'est l'instrument national suédois. C'est un gros violon alto avec un système de clavier et un système de cordes de résonance, les cordes sympathiques au nombre de 12. Donc il y a 4 cordes mélodiques qui sont actionnées par un archer qui est assez court. Et puis pour... Donc le clavier permet de changer la hauteur des sons, de changer les notes. Et donc dès qu'on actionne la corde mélodique, on va mettre en vibration les cordes sympathiques qui correspondent aux notes qu'on est en train de jouer. Voilà pour la partie un peu technique de l'instrument. Et c'est un instrument, en tout cas en Suède, dans son pays d'origine, c'est un instrument qui est... Qui est encore un peu rare pour les personnes qui ne s'intéressent pas du tout aux musiques populaires. Et puis c'est un instrument qui est très localisé. En fait, il vient de la région autour de Stockholm, Uppsala. Et il a peu voyagé dans les régions autour. Donc voilà, et puis dans les pays alentours, en France, il est arrivé dans les années 70 avec Laurent Vercambre de Malicorne. Et puis il s'est vraiment développé depuis une quinzaine d'années. Voilà.
Toi, Gaëdic, quels sont les instruments que tu joues sur scène? Je dis les parce que je vois le rack quelque part, je l'ai vu tout à l'heure. Et est-ce que tu peux nous présenter notamment tout particulièrement cet instrument à double manche? Et est-ce que c'était un fantasme de faire comme le Jimmy Page dans les années 70, cet instrument?
Alors, assurément, parce que voilà, Led Zeppelin était vraiment un de mes groupes préférés et depuis quasiment toujours. Et là, en plus, ce soir, il y en aura trois pour le prix d'un, puisqu'il y a trois instruments double manche. Ils sont tous les trois construits sur le même principe, mais évidemment, ils ont des intérêts différents. Il y a une guitare 6 cordes couplée à une guitare 12 cordes, voilà, qui ne sont pas accordées pareil l'une et l'autre. Il y a une guitare en ré 6 cordes couplée à une mandole basse en ré. Et il y a une guitare terce, donc une guitare un petit peu plus aiguë, en sol, une guitare à la tierce, donc, et qui est couplée à une mandole en sol. Voilà pour les trois instruments double manche. J'ajoute que l'intérêt des double manches, c'est de pouvoir avoir deux instruments en un, première chose. Et ensuite, c'est aussi en rapport avec ce que disait Léonore sur les résonances sympathiques. Même si je ne joue qu'un des deux manches, l'autre a un rôle dans le son émis par l'instrument, c'est-à-dire que les cordes de l'autre manche entrent en résonance sympathique. Raison pour laquelle, lorsque j'utilise des capodastres, donc pour raccourcir le diapason, la longueur des cordes, eh bien, même si je ne joue pas l'autre manche, je le place aussi sur l'autre pour avoir des résonances accordées. Voilà. Et enfin, il y a un quatrième instrument qui n'est pas des moindres, c'est un sistrobasse nordique, donc c'est un instrument suédois qui n'est fabriqué qu'en Suède, à ma connaissance, et donc c'est une mandole, et plus exactement un sistre, donc 5 cœurs, donc 5 cordes doublées. C'est un instrument multidiapason, c'est-à-dire que toutes les cordes n'ont pas la même longueur, et donc ça permet d'avoir des cordes longues et épaisses pour les graves, des cordes plus courtes et moins épaisses pour les cordes aiguës, ce qui favorise l'expression des deux types de sons. Ensuite, il y a des quarts de ton, dessus, comme ça se fait beaucoup dans le nord et pas que dans le sud, ce qui s'accorde particulièrement bien avec notamment un des instruments d'Éléonore, son nickel harpa ténor, qui est lui-même pourvu de quart de ton.
Puisqu'on est dans une émission sur le trad, est-ce que vous pourriez me détailler votre rapport aux musiques trad ou au monde du trad? Est-ce que vous avez l'impression de faire partie de cet univers d'une certaine manière ou pas du tout?
D'une certaine manière, dans le sens où, et en particulier, moi, c'est des musiques que j'ai beaucoup pratiquées. Faire danser les gens, chercher le bon groove pour la danse. Mais ensuite, ce sont des musiques desquelles on prend beaucoup de liberté pour en faire juste ce qu'on veut. Donc en fait, nous, on n'est pas très inséré dans le milieu trad, on est plutôt inséré à partir du milieu des musiques du monde jusqu'à des milieux assez vastes. En fait, on joue pour des programmations de festivals classiques, de métal, des rock, des scènes de musiques actuelles. Donc voilà, pas trop dans le trad.
D'accord. Et quelle est la place des musiques scandinaves en France? Tu as parlé un petit peu du développement du nickel harpa. Mon impression est qu'il n'y a pas aujourd'hui en France la popularité pour les musiques scandinaves équivalente à celle des musiques irlandaises ou peut-être même pas des musiques des Balkans. Est-ce que ça reste marginal? Est-ce que c'est en développement ou pas? Quelle est votre impression là-dessus?
Alors ça reste marginal, mais ce sont quand même des musiques qui sont de plus en plus à la mode. Maintenant, c'est vraiment pas rare que des groupes de baltrad jouent, une Slengpolska, une polska, et c'est des musiques qui sont appréciées. Après, les danseurs sont pas forcément coutumiers du fait de danser une polska. Et puis, il y a plein de types de polska, donc c'est quand même des danses qui peuvent être un peu techniques. Mais voilà, c'est vraiment en développement depuis 10-15 ans. C'est pas rare d'être dans un festival et d'entendre jouer des musiciens des musiques populaires scandinaves.
Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose, moi je vois ça d'un point de vue un peu intérieur-extérieur, parce que je ne suis pas issu des musiques traditionnelles. Tu parlais tout à l'heure, dans ta question, tu faisais référence donc aux musiques irlandaises par exemple. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la musique irlandaise, est-ce que c'est dans le réseau des musiques trad? En fait, ils ont un réseau propre. Il y a plein de tout le réseau des pubs irlandais. Ils ne jouent que de l'irlandais. Personne ne va y jouer de la bourrée auvergnate. Donc en fait, eux, ils ont une vie propre qui est en liaison avec les musiques traditionnelles, mais aussi en tant que telles. C'est pareil pour les musiques balkaniques, par exemple, qui sont très en lien avec la scène jazz, par exemple, ou même avec la musique classique. Vous voyez, y avoir beaucoup de musiciens, de solistes de classiques qui vont se mettre au klezmer, par exemple, pour le meilleur et pour le pire, parce que on a l'occasion d'entendre des choses parfois tout à fait étranges, parce que c'est quand même des musiques populaires, très chaleureuses, très même avec un côté un peu foutraque, qui est à mon sens un peu perdu par certains interprètes un petit peu trop classiques. Et donc, moi je pense que le nickel harpa et donc les musiques suédoises font partie du monde du trad, comme plein d'autres types de trad sont dans ce monde du trad, et vraiment les grands, il y a des genres comme la musique celtique, particulièrement irlandaise, la musique balkanique, qui en sortent et qui s'en échappent, en fait.
Mais après, voilà, il existe en France plein de festivals de musique celtique, on commence à voir apparaître des festivals de musique scandinave. Là, on a joué récemment au Bar-sur-Loup, au nord de Nice, dans un festival dédié aux musiques scandinaves.
Est-ce qu'aujourd'hui la musique scandinave est un peu portée en France aussi par la popularité de toute la culture viking autour des séries, la popularité dans le monde du métal de la musique scandinave du fait de la prégnance des groupes scandinaves? Est-ce que ça, vous en bénéficiez et vous voyez que ça monte grâce à cette culture-là?
Alors oui, indéniablement oui. D'ailleurs, on doit parfois, on a dû, parce que maintenant on a un peu lâché l'affaire, mais on a dû beaucoup se battre contre, par exemple, des appellations de notre musique néo-folk viking, par exemple. C'est juste pas vrai, c'est juste pas ça. Sauf que, en fait, on s'est aussi rendu compte que c'est ça qui parlait aux gens. Et donc, au bout d'un moment, on a laissé tomber notre, notre volonté pédagogique d'essayer d'expliquer au mieux notre musique pour faire en sorte de laisser le maximum de gens être intéressés par le propos. Et donc, si néo-folk viking ou quoi que ce soit d'autre fait venir à des musiques qui sont finalement assez rares sur scène, eh bien, alléluia, et charge à nous, lorsqu'ils seront dans la salle, de leur expliquer de quoi ils retournent.
Quand tu disais alléluia, tu voulais dire par Odin,
c'est ça? Exactement.
Commence à travailler sur un nouveau répertoire, voilà, pour avancer. On joue aussi régulièrement sur scène avec un batteur, Christophe Pio. Donc c'est vrai que là, on sort d'une résidence au conservatoire de Montélimar, où on a travaillé là en duo sur tout l'aspect technique de nos concerts, avec des lancements de séquences, des lancements d'ambiance, de sons d'ambiance. Donc ça, c'est un travail qu'on va poursuivre, et puis aussi avec Christophe à la batterie. Et puis voilà, on projette de travailler sur le nouveau répertoire là bientôt.
Et en fait, à l'instar de ce que je disais tout à l'heure sur les appellations, les dénominations paganes, je ne sais quoi, ou Nordic folk, en fait, nous, on n'essaye pas de lutter contre les évidences. Il y a une chose qui revient en permanence autour de notre musique, c'est le côté cinématographique. Il y a plein de gens qui, que ce soit sur disque ou en concert, nous disent « Ah, j'ai fermé les yeux, on a voyagé, c'était génial, on était dans les grandes forêts, les Landes, tout ça. » Bon, ceci dit, nous, c'est des résonances qui nous touchent particulièrement parce que c'est aussi ces paysages et ces rêves qui nous inspirent. Donc, du coup, on a choisi, parce que ça nous va et parce qu'on sent que ça parle aux gens, par un travail sur le son, de rendre encore plus cinématographique et encore plus presque visuellement auditive notre musique.
Mais c'était bien ça, c'était quoi ?
Alors c'était Morvat 2, c'est le nom du morceau, Morvat 2, et le groupe c'est Endiaz. Alors dans la lignée des groupes bretons qui osent un mélange des genres assez radical, on peut citer Endiaz. Comme vous l'avez constaté, le breton côtoie franchement le jazz, voire le free jazz. Et c'était moins visible dans ce morceau, les musiques orientales aussi. Parfois c'est même l'Inde, il paraît que le percussionniste a travaillé son jeu de percussion là-bas. Leur couleur est très cuivrée, forcément, avec deux saxophones, un bugle et une trompette. Ça fait beaucoup de cuivre, qui se donc des instruments que se partagent deux des quatre membres du groupe. Et puis, dans le morceau qu'on vient d'écouter, il y avait même un invité au saxophone bariton en plus. Malheureusement, comme bon nombre de groupes bretons, on les voit assez peu au sud de la Loire.
C'est vrai, malheureusement.
Et mon père s'en va au bois, ma mère s'en va aux noces.
Mon père s'en va au bois, ma mère s'en va aux noces.
Et le marion recommandé de m'enfermer ma porte.
Les oies sont à tout ôter, on va quitter la porte.
Et les oies sont à tout ôter, on va quitter la porte.
Les oies sont à tout ôter, on va quitter la porte.
Le m'avion recommandé de m'enfermer ma porte.
Le m'avion recommandé de m'enfermer ma porte.
Il est quelle il est boré avec toi, bras d'or.
Les oies sont tout ôtées, on va quitter la porte.
Les oies sont tout ôtées, on va quitter la porte.
Les oies sont tout ôtées, on va quitter la porte.
Il est quelle il est boré avec toi, bras d'or. Frapper à ma porte.
Les oies sont à tout ôter, on va quitter la
porte. Ok, 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 grand haquet à la porte.
Les oies sont à tout ôter, on va quitter la porte.
Mon amour est arrivé pour frapper à ma porte. Et pousse, pousse mon volet, la serrure n'est pas forte.
Les oies sont à tout ôter.
Pousse, pousse mon volet, la serrure n'est pas forte. Et mon amant attend pour s'éclater, passer la porte.
Les oies sont de tout ôter, on va quitter la porte.
Hé, 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 hé.
Et comme ma mère est arrivée, elle m'a dit pauvre sotte. Les oiseaux de tout autour, ils ont hargué à la porte.
Alors, on vient d'écouter Les Oies de Tchak Boum. Tchak Boum, c'est un groupe incontournable de la scène trad, à la réputation bien assise et qui tourne sans relâche depuis sa création en 2009 pour des bals qui peuvent parfois durer 6 heures. Donc, c'était pas facile de choisir le morceau qu'on allait vous passer. On s'est donc décidé pour un des derniers, puisque la composition du groupe a aussi un petit peu changé au fur et à mesure du temps. Et le mieux, c'est encore que vous alliez écouter tout le reste. Et il semble qu'il n'y ait pas de recette miracle à Tchak Boum, mais une énergie très communicative, deux violons, un accordéon chromatique et puis des voix qui envoient la purée. Hein. Mm-hmm.
Tchak Boum, ça envoie la purée, je pense que c'est bien résumé.
Voilà. Ça fait Tchak, ça fait Boum. Enfin, voilà. Alors voilà trois musiciens qui ont le poitou pour terrain de jeu, en revisitant les airs traditionnels avec aussi quelques compos, mais des compos qui sont de fait plutôt des maréchines que des cercles circassiens. Parmi eux, Julien Padovani, qui fait aussi partie du groupe Balam, un quatuor d'accordéon chromatique dont on vous parlait lors d'une précédente émission. Si vous avez loupé, allez donc écouter ce que fait Balam. On les retrouve bientôt, donc Tchak Boum, on les retrouve bientôt, on espère, dans l'écho du parquet avec une interview des musiciens. Et surtout, si vous vivez dans le coin, notez qu'ils seront le 6 avril au théâtre de Privas pour un bal au théâtre, et oui, parfois ça arrive.
L'écho du parquet, l'émission qui met le feu au plancher.
Alors maintenant, on voudrait finir en vous présentant quatre Irlandais qui forment le groupe Lancôme du trad irlandais qui tire vers le rock progressif. Mmh. Lancôme, c'est la rencontre dans les pubs, en jam session. On parlait tout à l'heure des pubs irlandais. Hein. C'est pas un mythe, ça existe vraiment.
Il y en a vraiment en Irlande, des pubs irlandais.
Ouais, je crois bien, oui. Donc la rencontre entre deux frères amateurs de punk qui se mettent à fréquenter les pubs de musique trad comme un bon plan pour jouer et écouter de la musique à moindre frais. Et puis donc la rencontre entre ces deux-là et deux enfants de culture trad irlandaise, eux qui sont vraiment nés dans le trad. Alors on a Whistle, Yulan Pipes, comment on dit Yulan Pipes?
Yulan Pipes.
Yulan Pipes.
Je crois que c'est juste comme ça.
Yulan Pipes. Pipes. Et violon, enfin bref, l'instrumentarium irlandais au complet, et puis beaucoup d'autres instruments aussi, hein, chacun joue à peu près 4-5 instruments différents. Mais un instrumentarium qui sert une dimension quand même assez distordue de la musique trad irlandaise, un univers qui finalement est assez sombre, avec des ambiances assez inquiétantes, qui est peut-être est propre à la musique irlandaise, mais qu'on n'a pas forcément l'habitude d'associer à la musique irlandaise. Eux disent que, en fait, les ballades, etc., si on regarde un peu les textes, c'est extrêmement sombre et extrêmement déprimant, mais c'est pas toujours l'impression qu'on a en écoutant de la musique irlandaise. Eux le retranscrivent assez bien. Alors, on vous parlait il y a quelques temps de Planxty, c'est quand même l'un des groupes irlandais qui inspire Lancôme, c'est eux qui disent ça. Raddy Pitt, qui est la chanteuse et multi-instrumentiste de Lancôme, témoigne à propos du revivalisme dans une interview qu'on peut lire sur le Financial Times. Nous ne faisons rien revivre, la tradition en Irlande a toujours été très présente, elle se porte très bien et elle le restera longtemps après nous. Mmh. Une façon comme une autre de dire que voilà, ils sont là avec des racines traditionnelles peut-être, mais ils n'ont pas pour ambition d'en faire quelque chose de... Enfin, de faire revivre une tradition. Alors, on se quitte avec un morceau qu'on aime beaucoup, qui est sur l'un de... Pas leur dernier disque, en fait. L'avant-dernier disque. Qui est un morceau que vous reconnaîtrez, puisque c'est Pitbox Soldiers, un chant de lutte des communistes allemands en camp de concentration, qui vous est donc certainement familier, mais peut-être aussi avec d'autres paroles, puisqu'il s'agit de la...
L'hymne des femmes.
Voilà, j'allais dire la marche des femmes, pas du tout. Bon, en fait, j'ai tout spoilé, vous la reconnaîtrez parce qu'on a déjà dit ce que c'était, et qui est ici arrangé un peu différemment, arrangé à la sauce Lancôme, quoi. Et puis on se quitte sur ça.
À la prochaine.
Far and wide as the eye can wander, heath and moor are everywhere. Not a bird sings out to greet us. Trees are standing gaunt and bare. We are the Pitbox Soldiers, marching with our spades to the moor. Up and down the guards are pacing. No one can get through. Flight would mean a sure death facing. Guns and barbed wire block our view. We are the Pitbox Soldiers, marching with our spades to Soldiers, my